Se faire plaisir, toujours au bon prix, chez Auchan. Jusqu'à lundi, grâce à votre carte Waouh Auchan, cagnottez 60% sur le deuxième paquet de linguine Auchan Tavola in Italia.
Eh, avec une offre pareille, ça sent déjà bon les pâtes à l'italienne.
Auchan, avec plaisir. 1,39€ cagnotte déduite, les deux paquets de 500 grammes de linguine Auchan Tavola in Italia. Prix payé en caisse, 1,98€, soit 1,98€ le kilo. Existant d'autres variétés, valables sur le moins cher dans vos magasins et drive Auchan participants et en livraison à domicile. Pour votre santé, bougez plus.
Carrefour.
Quand vous me dites, les JO de Paris 2024, ça va être énorme! Et pour une fois, toute la France sera derrière Paris! Eh bien, je vous réponds que pour célébrer les Jeux Olympiques de Paris 2024, il y a une collection exclusive chez Carrefour. Comme par exemple, le ballon de foot Paris 2024 à 9,99€ seulement. Alors? Ah bah ça, c'est énorme! Et c'est dans vos hypermarchés Carrefour.
Carrefour, partenaire premium des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Jusqu'à épuisement des stocks, produits officiels sous licence, détails sur carrefour.fr.
RMC 8h-10h, votre maison. François Sorel, Christian Pesset.
Votre matinée chez nous à partir de 10h sur RMC, vous retrouverez les GG du sport. Et puis bien sûr, je serai là demain dimanche entre 6h et 10h avec les animaux. Laetitia Barlerin entre 6 et 8 et puis on enchaînera avec l'automobile. Et Jean-Luc Moreau, on essaiera de vous aider pour vous donner un maximum de conseils si vous êtes en passe de perdre votre permis de conduire. Ah, si ça, vous reste pas beaucoup de points, etc. Les stages de récupération de points, etc. On en parlera avec un spécialiste. Mais dans l'immédiat, pour cette deuxième partie dédiée à la maison, on parle de chauffage. Christian.
Voilà.
Voilà, le chauffage dans sa globalité.
Oui, on va surtout parler ce matin de s'intéresser au chauffage à la veille de l'hiver et principalement du chauffage central, des poêles, l'électricité en général. Il n'y a pas beaucoup à faire pour l'entretenir. Donc, on va parler entretien de chaudière, de radiateur, de ramenage. On va parler robinet thermostatique, thermostat programmable et aussi récupérateur de chaleur puisque c'est aussi une préoccupation compte tenu des conditions d'installation maintenant des poêle à bois dans les maisons, mais souvent un poêle central et puis on espère que ça chauffe toute la maison. Ah non, il faut faire quand même un petit peu d'équipement.
Donc alors maintenant des questions, hein, bien voilà, sûr. Voilà. Si vous êtes intéressé par ce sujet et que vous voulez questionner à la fois Christian et nos invités, 32-16.
Alors nos invités, on a Benjamin Duarte qui est avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour. Vous êtes patron de VB Gaz, une société d'entretien, on va dire globalement des systèmes de chauffage et notamment gaz. Et vous êtes président Île-de-France du CINASAV, c'est le syndicat national de la maintenance et de l'efficacité énergétique. Nous avons avec nous aussi Stéphane Berlioz-Latour. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur marketing de Deltador, société spécialisée dans les solutions domotiques et notamment de la gestion des systèmes de chauffage. Et Frédéric Coirier, bien connu dans cette émission, qui est déjà venu plusieurs fois, qui est président du directoire de Cheminée Poujoula.
Bonjour,
bonjour. Et donc vous allez nous parler conduit de fumée parce que c'est très important et récupérateur de chaleur. Voilà.
En introduction, si on accueille Franck Christian qui nous a appelé au 32-16 et qui bien évidemment une question sur le chauffage et notamment concernant eh bien sa vieille chaudière. Bonjour Franck.
Bonjour Franck.
Bonjour, voilà.
Bienvenue.
J'ai une vieille chaudière qui a plus de 40 ans. Bonjour à vous, pardon.
Ouais.
Oui.
J'ai une vieille chaudière qui a plus de 40 ans, elle consomme beaucoup trop, elle consomme 500 litres pour un mois, voilà.
Ah oui, c'est beaucoup.
J'allais parler à mon propriétaire, mais elle veut rien savoir. Elle veut pas la changer, et comment je fais pour moins consommer, quoi.
Bon, ça c'est une question. Alors, je pense que déjà la première des choses, ça serait de l'entretenir, hein, de bien l'entretenir, peut-être faire passer donc un technicien. Benjamin Duarte, qu'est-ce que vous conseillez en termes d'entretien? Déjà, on parlera aussi légalement d'ailleurs de ce qui est obligatoire. Mais pour qu'une vieille chaudière fonctionne mieux, mis à part on parle
et qu'elle consomme moins aussi,
et qu'elle consomme moins
en l'entretenant, on peut consommer
voilà,
moins.
Est-ce que véritablement bon, ça
bonjour,
peut jouer?
Bonjour Franck. Déjà avant tout, ce qu'il faudrait faire, bien évidemment, c'est suivre la loi qui implique la révision annuelle, ce qui permettra d'avoir une bonne combustion. Bon, je veux dire qu'à 40 ans, il ne faut pas attendre des miracles non plus, mais une bonne visite préventive provoquera le fait que la chaudière consommera un peu moins. Après, bien évidemment, on passera pour une chaudière à condensation, mais c'est un autre débat, étant donné que le propriétaire de ce monsieur ne veut pas
changer sa chaudière. Bon, et en matière, on peut déjà parler de programmation et aussi de gestion thermostatique. Moi, j'ai constaté il y a quelques années qu'en mettant un thermostat centralisé qui déjà coupait la chaudière simplement quand on n'en avait pas besoin, c'est-à-dire quand on n'était pas là, on gagne déjà 30% d'énergie.
Tout à fait. L'avantage du thermostat programmable et surtout connecté, c'est qu'on va pouvoir faire des plages de programmation qui va piloter la chaudière de manière à chauffer que lorsqu'on en a besoin et à la température qui, pour nous, est une température
d'accord.
de confort.
Mais on a quand même la problématique, là, c'est que une chaudière de 40 ans, des fois, on peut pas la raccorder à un thermostat déporté, si, toujours.
Non, pas toujours. Effectivement, ça dépend des chaudières. Néanmoins, on a beaucoup de systèmes existants qui permettent de s'intégrer et de s'interfacer avec un grand nombre de chaudières.
Christian, quand on écoute la question de Franck, on se rend compte que sa propriétaire ne veut pas lui changer sa chaudière.
Ouais.
Une chaudière qui a 40 ans, qui consomme plus que la moyenne. Est-ce qu'il n'y a pas une législation là qui obligerait en quelque sorte le propriétaire à faire des efforts ou d'entretien, ou alors changer cette chaudière pour que Franck consomme moins?
Et non, il n'y a rien. Il n'y a même pas d'obligation véritablement, par exemple, de refaire l'isolation, parce que la première, ce qu'on pourrait aussi dire.
Bien sûr. Mais ça, c'est en préambule.
Aussi dire à Franck, c'est
presque en préambule
de
toute cette heure-là.
Voilà, isolons et déjà sa chaudière va moins consommer. C'est la base. Hein,
ouais.
C'est la meilleure des énergies, c'est encore celle qu'on n'utilise pas. Hein. Mais en termes d'obligation, non. Il faudrait que la chaudière ne marche pas ou marche mal. À ce moment-là, on pourrait dire qu'il y a quelque chose qui rend le logement indécent. Oui, mais sinon, non, on ne peut rien.
Et est-ce qu'il y a des aides là s'il veut changer sa chaudière?
Bien sûr, il y aura tout l'arsenal des crédits d'impôt. Il n'y aura pas de souci. Je parle sous couvert.
Oui, tout à fait, 30% de crédit d'impôt sur le remplacement de la chaudière pour une chaudière à condensation après les prix de l'énergie qui viennent s'égreffer avec cela.
D'accord, non, mais ça peut être aussi un argument que Franck peut donner à sa propriétaire. Peut-être qu'elle n'est pas au courant qu'il y a des aides justement qui pourraient faire baisser le prix.
Oui, en général, les propriétaires sont bien au courant, mais
ouais,
vous savez bien ce que c'est. Hein, c'est une question de gestion, hein, après.
Christian, on revient dans un instant, il est 9h17. On parle de chauffage, d'entretien de chauffage. N'hésitez pas donc à l'approche de l'hiver à poser vos questions sur ce sujet dès maintenant. Le 3216 ou maison@rmc.fr. A tout de suite.
RMC jusqu'à 10h. Votre maison. RMC jusqu'à 10h, votre maison, François Sorel, Christian Pesset.
Merci d'être avec nous. Un salut amical à tous ceux qui viennent de nous rejoindre sur RMC. Il est 9h20 et vous êtes au cœur de ce week-end des experts maison. On évoque ce matin avec Christian et nos invités. On évoque le chauffage,
voilà.
Tout simplement. Donc, n'hésitez pas à nous appeler au 3216.
On évoque la relance du système de chauffage. C'est le moment.
Et Hélène nous attend au 3216. Bonjour Hélène.
Bonjour Hélène.
Oui, bonjour.
Bienvenue.
Merci de me recevoir à l'antenne.
Je vous en prie.
Donc ma question est celle-ci. J'ai donc ma maison en chantier actuellement. Nous sommes en passe de refaire la cuisine.
Oui.
Et dans cette cuisine, nous avons un conduit cheminée qui est ancien. Hein, c'est une vieille maison. Et on aimerait le remettre en fonction et s'en servir pour faire chauffer la maison, qui est assez grande.
Avec un poêle.
Oui, avec un poêle ou une cheminée. On ne sait pas trop ce qui serait le mieux à l'adapter.
Ou un insert
pour
dans la cheminée.
Récupérer la chaleur. Mmh. Voilà, pour récupérer la chaleur et puis la diffuser dans toute la maison. On a eu le conseil de faire ce système avec un appoint électrique pour pouvoir avoir de la chaleur en permanence. Je voulais savoir ce que vous en pensez et surtout si vraiment ça peut être économique pour une maison qui est déjà 140 mètres carrés.
Avec de l'étage ou pas?
Avec un étage.
Vous avez un étage?
Oui, avec un étage.
Bon. Oui, moi ça me paraît être une bonne solution. Le conseil est bon. Maintenant, vous avez un double problème que vous évoquez bien. C'est le problème du conduit. C'est-à-dire, il va falloir certainement y faire quelque chose. Alors, on va voir tout de suite. Et ensuite, le problème de la récupération de chaleur pour la diffuser vers d'autres pièces. Frédéric Coirier de chez Cheminée Poujoula. Là, c'est complètement pour vous, cette question.
Oui.
Alors, qu'est-ce que vous préconisez? On remplace, on tube le conduit, qu'est-ce qu'on met pour récupérer la chaleur?
Alors, si on réutilise le conduit existant, ce sera pas forcément évident de mettre un récupérateur, parce que il faut pouvoir à un moment donné canaliser, récupérer la chaleur. Déjà dans la cuisine, Hélène a plusieurs choix. Elle peut mettre un insert, un poêle ou une cuisinière à bois. Ça existe également.
Ah oui, c'est sympa aussi.
Donc il y a des choses sympas qui permettent de faire de la cuisson et de chauffer.
Et on peut récupérer la chaleur d'un poêle alors. Du coup,
on peut la récupérer, mais
qu'on pouvait pas faire.
Si on peut la récupérer, mais a priori plutôt dans un conduit.
Il vaut peut-être mieux refaire un conduit directement plutôt que d'utiliser le vieux conduit.
Hélène, On peut réutiliser l'espace utilisé par le conduit actuel en créer un. Et à ce moment-là, il existe des systèmes de récupération de chaleur qui effectivement vont permettre de répartir la chaleur sur 5-6 pièces.
Comment on récupère la chaleur? Fumée quelque part.
Oui, en fait, vous avez un échangeur autour du conduit de fumée dans lequel on va injecter de l'air frais. L'air frais va s'échanger sur le conduit et ensuite se diffuser vers les pièces de vie. On peut récupérer comme ça à peu près 2 kilowatts qu'on peut redistribuer sur les pièces, donc ramener avec un petit appoint électrique, effectivement, avoir 20 degrés dans les chambres.
Mais vous avez un système de ventilation alors qui pousse l'air.
Oui, vous avez un système qui en fait va va soit
aller chercher... J'ai conseillé de mettre une fonction.
Oui, soit on va reprendre l'air dans la pièce où elle va avoir son appareil, qui va souvent être un peu trop chauffé. Où on va faire un apport extérieur, on va l'échanger sur le conduit et ensuite on le diffuse dans les chambres et où elle le souhaitera.
Ben voilà, c'est une. Je pense que vous avez la réponse. Merci.
Très bon conseil, merci beaucoup.
Merci.
Bonne journée.
Bonne journée, Benjamin Duarte. Donc, on parle conduit. Donc, si on parle conduit, on parle aussi ramonage. Vous pourriez nous rappeler la réglementation? C'est 2 ramonages, hein, je crois, normalement.
En fonction des régions, ça va d'un à plusieurs ramonages, effectivement, par an.
1 à 2, c'est ça.
Tout à fait. Si c'est du gaz, si c'est du fioul, du charbon.
Alors, si c'est du gaz, c'est qu'une seule fois.
Une seule fois par an. En fonction, encore une fois, des régions. Parce que c'est qu'il y a des régions, on nous oblige 2 fois par an.
Ah bon? Même sur le gaz?
Tout à fait.
Alors, c'est leur réglementation, c'est le règlement départemental sanitaire, c'est ça?
C'est la même.
Ah, d'accord. Et donc, pour ce ramonage, qui peut ramener? Parce qu'on entend souvent parler aussi de l'utilisation de bûches de ramonage, tout ça. Il faut que ça soit un ramonage mécanique?
Il faut que ça soit un ramonage mécanique par un professionnel qualifié.
D'accord, et qui va vous donner une attestation
Il vous fera, à la fin de son travail, il vous établira une attestation de ramonage en bonne et due forme pour que vous soyez en accord avec votre assureur.
Il faut peut-être faire attention aux itinérants là qui viennent vous proposer...
Oui, malheureusement...
Qu'est-ce qu'on est en droit d'exiger comme...
Il y a un certificat Calibat où vous avez un agrément pour être ramoneur. Donc, il faut passer ses examens, avoir ce certificat.
Donc, on peut l'exiger, ça, on peut
tout
le demander.
Il faut l'exiger. Il faut l'exiger, cette qualification.
Mais alors, il nous sort quoi? Un papier avant de ramoner?
C'est ça,
attestation. Il a toujours sur lui. Il peut nous dire, attendez, non, je l'ai pas, elle est au bureau, machin.
Pas obligatoirement, mais tout simplement, lors de la prise de rendez-vous, on peut exiger ou demander que l'intervenant vienne avec son attestation.
D'accord. Ça se fait, on va pas passer pour un fou. Quoi,
absolument pas.
D'accord.
Mais alors, moi souvent je vois maintenant des ramoneurs entre guillemets qui se contentent de rentrer dans l'appartement, qui mettent un aspirateur, il faut quand même monter sur le toit, non?
Il vaut mieux, tout dépend de la configuration du ramonage et tout dépend.
Et alors, le problème des conduits métalliques, ça pose pas davantage de difficultés, non?
Non, il n'y a pas de... Non, parce que généralement, comme ils sont lisses...
Frédéric Courrier.
Comme les conduits sont lisses, les particules, tout ce qui peut en fait se coller à l'intérieur du conduit, colle moins que dans un conduit traditionnel qui va être plus rugueux. Ceci étant, un des éléments, c'est le matériel que va amener le professionnel. Si vous voyez quelqu'un bien équipé, c'est plutôt bon signe.
Ouais.
Effectivement, le gars qui arrive avec un petit matériel et
avec un goupillon...
Aujourd'hui, il y a des centrales de ramonage. On a, surtout sur le métal, pas de hérisson métallique.
Sinon,
vous les dégradez.
Oui,
c'est un truc tout simple, mais il faut un nylon, parce que sinon, vous allez rayer le conduit et probablement l'endommager. Et effectivement, un équipement d'aspiration pour éviter de salir le logement.
Alors qu'en revanche, sur un vieux conduit maçonné, j'imagine que là, il faut peut-être mieux du métallique pour gratter les calcins.
Messieurs, dames, et messieurs, parce que les dames, il n'y en a pas encore. Enfin,
non,
cela dit, on avait notre auditrice il y a quelques instants.
Qui nous écoute, il y a quelques dames.
Tout à fait, et puis on aura Johanna aussi dans quelques minutes. Johanna Rockton, qui est chef de produit chez Jeb, qui nous rejoindra. Donc la météo, les infos, et on est de retour sur RMC pour ce week-end des experts maison. On évoque le chauffage à l'approche de l'hiver. N'hésitez pas, le 3216 ou maison@rmc.fr, vous pouvez nous joindre et poser vos questions. À tout de suite. Christian Pessé.
Oui, François Sorel.
Je vous sens concentré.
Mais bien sûr.
Serait-ce la question flash qui vous met dans cet état?
Oui, ce que vous voulez. Je n'ai pas tellement l'habitude. Quoi.
Voilà. C'est le trac.
C'est le trac.
Et voilà. En moins de 2 minutes
Allez-y.
Maintenant, vous vous engagez à répondre à la question de Greg.
Oui.
Nous allons faire construire dans la région d'Aix-en-Provence, nous dit Greg. On nous propose de nous dispenser de gouttières. Il paraît qu'une génoise suffit et que c'est beaucoup plus esthétique. Qu'en pensez-vous?
Alors, c'est en effet à la mode et traditionnel et très pratiqué depuis longtemps. Dans le midi, on se contente effectivement de réaliser une génoise, c'est ce que nous dit Greg, c'est-à-dire un habillage maçonné en pente. bande dégressive qui est en plus festonnée entre le bord inférieur des tuiles et le mur. Alors ça reposait sur un constat, c'est que dans le midi, eh bien, il pleut beaucoup, mais moins souvent. Beaucoup en quantité, on l'a vu récemment avec les épisodes Cévenol et qui ont touché l'Hérault et le Gard, mais et du coup l'eau allait projeter loin du mur. Et donc, a priori, ça va. Sauf que le climat, il évolue un peu et il pleut plus de jours par an aujourd'hui qu'autrefois. Et puis, souvent, on met une terrasse devant la maison, on met un trottoir. Et du coup, eh bien, l'eau qui tombe sur cette surface qui n'absorbe pas l'eau, eh bien, elle va être projetée contre le mur, vers le mur, et on a des phénomènes d'humidification de pieds de mur. Alors, moi, je suis un ardent défenseur de la gouttière. oui, plutôt que de cette situation sans gouttière et avec génoise, même si effectivement c'est un peu plus esthétique. Mais une gouttière, ça a l'avantage, c'est que ça canalise l'eau, ça l'envoie où vous voulez, oui. Et pas seulement au pied des murs, comme on le voit trop souvent après avec des phénomènes d'humidification des bâtis.
Le 3216, maison@rmc.fr, n'hésitez pas à nous appeler, nous sommes là avec Christian jusqu'à 10h sur RMC.
RMC 8h-10h, votre maison, François Sorel, Christian Pesset.
Il est 9h34, bonjour à vous toutes et à vous tous, peut-être venez-vous de nous rejoindre sur RMC. Merci d'être là, bienvenue jusqu'à 10h, c'est votre rendez-vous maison avec Christian Pesset, notre expert maison. Et on évoque ce matin, à l'approche de l'hiver, eh bien le chauffage en compagnie de nos invités.
Voilà, nos invités, Benjamin Duarte, donc Lucina Save, Stéphane Berlioz-Latour de chez Delta Dor et Frédéric Coirier de Cheminée Poujoula. Et nous avons, qui nous attend en ligne, Johanna Roqueton, qui est chef de produit chez GEB, qui va nous parler de l'entretien des circuits de chauffage.
Bonjour,
bonjour Johanna.
Bonjour.
Alors, GEB, il y a une gamme impressionnante de produits, d'additifs à mettre dans le circuit de chauffage central, et d'autant plus important aujourd'hui qu'on a aussi des circuits dans le plancher, avec les planchers chauffants, problème de colmatage, de boue qui s'accumule. Alors, c'est quoi? Vous pouvez nous dire les principaux produits qui existent pour entretenir, et on les met, on oublie souvent d'en mettre, pour entretenir oui. Donc régulièrement l'installation de chauffage central.
Alors, comme vous l'avez dit, il y a donc de la boue dans les réseaux de chauffage. Oui. Et pour un peu remettre le contexte, comment on voit qu'on a des boues dans notre réseau de chauffage? On a une facture énergétique qui augmente, on a du bruit dans l'installation, de la casse d'équipement. Et puis, ce qui est assez visible, c'est le radiateur quand il chauffe très bien sur la partie du haut et sur la partie du bas.
Et pas sur celle du bas. Pourquoi il y a de la boue dans un système de chauffage? D'où elle vient, cette boue?
Oui, alors en fait, on appelle de particules ferreuses. En fait, c'est simplement le contact de l'eau avec les matériaux qui se trouvent dans l'installation qui forment des boues. Donc, comme vous l'avez dit, il y a des produits qui sont présents pour traiter donc les boues. Donc, on appelle ça un traitement de désembouage. Donc, en fait, il faut arrêter la chaudière, introduire le produit de désembouage dans l'installation, le faire circuler quelques jours et ensuite l'évacuer jusqu'au tout à l'égout ou au regard.
D'accord. Alors, il y a aussi beaucoup d'autres produits, style anti-fuite. Je sais que vous en avez beaucoup.
Oui.
Mais alors, concrètement, comment on fait? Comment on fait pour... Parce que moi, j'ai une installation de chauffage central. Comment je fais rentrer un litre de produit dans le circuit?
Alors, vous avez deux méthodes, et c'est en fonction de l'état de boue que vous avez dans votre réseau. Soit vous avez un réseau qui est très saturé en boue, et dans ce cas-là, on préconise d'utiliser une pompe en utilisant le produit, et donc vous allez raccorder la pompe à votre réseau de chauffage.
Ouais, enfin, c'est un pro. Moi, j'ai pas de pompe pour l'installation.
Voilà.
Alors, si je suis amateur, qu'est-ce que je fais?
Si vous êtes amateur, vous allez prendre tout simplement un flexible et un entonnoir, vous allez introduire le produit sur la partie la plus haute de votre installation.
Oui, mais il faut déjà en vider un peu, parce que sinon...
Oui, vous avez raison. En fait, comme on a, c'est un circuit fermé, donc on a 100 litres, en moyenne dans une maison, on a 100 litres d'eau. Donc il faut effectivement retirer donc une partie de l'eau pour introduire...
Et comment je fais pour la retirer, cette eau? C'est un sketch de Fernand Reynaud, votre affaire, là.
En fait, il suffit de raccorder un flexible. Bon, par exemple, vous pouvez utiliser votre un flexible, un tuyau d'arrosage, ouais. Et ensuite le raccorder, donc la partie la plus basse de votre installation, jusqu'au tout à l'égout.
Mais en ouvrant quoi? Une vis de purge, l'évacuation basse d'un radiateur, par exemple?
Oui, voilà, c'est ça. Soit l'évacuation basse d'un radiateur, soit vous pouvez le raccorder directement sur votre chaudière.
D'accord.
En fait, ça dépend vraiment de l'installation.
D'accord. Et puis ensuite, donc on ferme tout ça et on remet l'installation en pression.
Exactement, c'est ça.
D'accord.
Et
ok.
Puis, oui.
Oui. Et puis?
Et puis, comme vous l'avez dit, quand on désembout, donc ça veut dire qu'on décolle les particules du réseau,
ouais.
On peut s'apercevoir qu'il y a des micro-fuites. Et donc là, vous en avez parlé tout à l'heure, il y a des produits qui existent, donc un liquide que vous introduisez dans votre circuit pour colmater les micro-fuites.
D'accord, bien, bah écoutez, merci Johanna Roqueton. Je rappelle, vous êtes chef de produit chez JEB.
Je vous remercie.
Merci beaucoup,
merci.
Johanna. Il est 9h38 sur RMC. Christian, on accueille Brigitte?
Ben, on accueille Brigitte.
Voilà, qui nous a appelé au 3216. Bonjour Brigitte.
Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue. Je vous remercie. Merci. Je vous remercie de prendre ma question. Alors, j'essaye d'être synthétique. Voilà, ma fille s'est installée dans une maison en location dans la région de Provins. Il y a à peu près un mois, elle a mis la chaudière en route il y a quelques jours,
oui.
Enfin, il n'y a pas très longtemps. Une révision était prévue de longue date qui a été faite pour sa chaudière qui se trouve dans un local fermé dans la cave, qui a une installation a priori correcte puisqu'il y a une cheminée d'évacuation qui a été donc ramonée. Et la première révision s'est bien passée sans souci. Et il y a deux jours, elle a eu des soucis de chaudière qui s'arrêtait. Donc, elle a rappelé le technicien qui est venu et qui a constaté avec son détecteur un taux anormalement élevé de monoxyde de carbone.
Ah. C'est une chaudière à quoi, vous n'avez pas précisé?
Une chaudière à gaz.
À gaz, d'accord.
Alors, je ne connais pas la marque, hein. Elle est
peu
assez
importe.
Ancienne, mais je ne connais pas. Bon, donc le technicien a dit, il n'y a pas de grille d'aération, il faut en créer une. Ce que je trouve curieux, c'est que si cette chaudière était révisée annuellement, peut-être que cette remarque a pu être faite antérieurement. En tous les cas, il n'y en avait pas. Donc, ma fille a essayé d'ouvrir un petit peu en attendant qu'on fasse une grille d'aération. Bon.
Et votre question, c'est quoi alors?
Ma question, c'est la suivante. Premièrement, est-ce qu'avec un système normal d'évacuation par une cheminée qui tire, ramenée régulièrement, est-ce qu'il y a du monoxyde de carbone dans la pièce? Ça, c'est la première question. Et la seconde, aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle doit faire si, par exemple, la propriétaire ne faisait pas d'emblée tout de suite une grille d'aération ou deux pour aérer la pièce?
D'accord. Monsieur Duarte, Benjamin Duarte, donc, c'est votre spécialité, ça, alors?
Alors, ce qui m'interpelle déjà avant tout, c'est le fait que cette dame dise qu'il n'y a pas d'aération. Alors, une chaudière, c'est une obligation, c'est une réglementation, il doit y avoir une aération basse, du moins. Après, si l'appareil...
Sauf si elle est à ventouse.
Sauf si elle est à ventouse, bien évidemment. Mais étant donné que c'est un ramonage, donc je considère que c'est pas une chaudière à ventouse,
oui.
Donc ce qui va dans mon sens en disant que l'aération basse, obligatoirement, l'aération haute, tout dépend de la hauteur du coupe tirage. 1m85, il n'y a pas obligation s'il y a que la chaudière dans la pièce. Donc déjà, il faut se mettre en conformité, parce que c'est très important. Obligatoire, hein, encore une fois.
Mais c'est la propriétaire qui doit se mettre en conformité, là.
Effectivement, c'est la propriétaire qui doit faire cette aération basse. Et là, il faut pas hésiter, il faut le faire au plus rapide. C'est tout simplement celle-là qui peut provoquer ça. Après, bien évidemment, si on veut une tranquillité à 100%, il faut mettre une chaudière ventouse, ça évite ce problème-là. Et je dirais aussi qu'une vie n'a pas de valeur. Et pour cela, il faut se protéger un petit peu. Il y a des détecteurs de monoxyde de carbone.
Oui,
peut-être
sûr.
Penser à cela,
oui.
Parce qu'une vie n'a pas de valeur. Mais déjà, l'aération en premier lieu.
Je rappellerai qu'une chaudière à ventouse, ça veut dire que c'est une chaudière qui fonctionne étanche, qui fonctionne en vase clos, si on peut dire. Et
exactement.
Donc là, on a des conduits. Là, je me retourne vers Frédéric Coirier de Poujoulard. Là, il y a maintenant des systèmes, des conduits qui sont concentriques. Hein, c'est ça.
Oui,
comment on peut décrire ça?
Eh bien, écoutez, l'amenée d'air se fait. C'est double paroi. Donc, vous avez les fumées qui passent au centre. Et entre le conduit de fumée et la paroi extérieure, vous avez l'amenée d'air.
D'accord. Ça veut dire que là, on a un conduit qui est de plus petite section qu'un conduit normal, et on le fait passer dans le conduit de fumée classique?
Non, c'est des conduits qui sont vendus monobloc, hein, c'est-à-dire, donc en fait, c'est des deux parois. La paroi intérieure, on évacue les fumées, la paroi extérieure, on amène l'air comburant, et l'ensemble est étanche.
Est-ce que si on a une chaudière de type de celle de Brigitte, il faut avoir un détecteur de monoxyde de carbone à votre avis?
Non, c'est pas indispensable.
Il y a une obligation au détecteur de fumée aujourd'hui, pas pour le monoxyde de carbone.
Oui, ça n'est
non,
pas obligatoire.
Non, c'est pour ça que je vous pose la question.
En revanche,
est-ce que c'est une sécurité?
Oui, c'est trop.
C'est pour ça, la vie n'ayant pas de valeur, je pense que c'est pas pour le coup que ça engendre.
Et
bien évidemment, il faut mieux avoir ce type de produit. C'est une protection individuelle.
Proche de l'appareil de chauffage en général. Comme ça, on est proche de la source.
Bien sûr. D'accord. Rappelons que l'entretien des chaudières est obligatoire au moins une fois par an.
Obligatoire.
Il est 9h43, c'est RMC. On revient dans un instant, le 32-16, si vous voulez poser votre question, ou bien maison@rmc.fr.
On va parler gestion du chauffage, amélioration justement, avec des thermostats.
Allez, à tout de suite, c'est RMC, c'est le week-end des experts.
RMC, 8h-10h, votre maison. RMC jusqu'à 10h, votre maison. François Sorel, Christian Pesset.
10h moins le quart, c'était RMC, le week-end des experts, la maison de retour. Christian Pesset toujours à mes côtés. On évoque le chauffage à l'approche de l'hiver, Christian, ce matin.
Voilà, on a évoqué les questions de sécurité, d'entretien. On va parler maintenant des questions de régulation du chauffage, et notamment du chauffage central, mais aussi du chauffage électrique. Nous avons avec nous, alors pour le chauffage central cette fois, en ligne qui nous attend, Eric Fauconnier, responsable marketing produit chez Danfoss. Bonjour, monsieur Fauconnier.
Bonjour. Oui, bonjour à tous.
Alors, les robinets thermostatiques, tout le monde connaît à peu près aujourd'hui. Mais est-ce que c'est pas un peu ringard? Ça a évolué? Vous en êtes où maintenant avec ces matériels qui se posent, donc, qui se substituent au robinet ordinaire du radiateur?
Tout à fait. Alors, ce sont des produits qui ont beaucoup effectivement évolué. C'est-à-dire que maintenant, il y a des versions électroniques qui permettent d'avoir plus de précision et d'ajouter des fonctions. Également des produits électroniques et radio qui communiquent avec une centrale dans la maison, ce qui permet de la commander à partir de l'extérieur.
D'accord.
Avec son smartphone. Mais je dirais que le produit même de base n'est pas ringard, parce que le grand problème en France, c'est que de très nombreux radiateurs, il y a des dizaines de millions de radiateurs qui ne sont pas équipés. Et si déjà les gens pouvaient mettre des produits, même si c'est vrai, ils sont un peu anciens de conception, ça serait déjà très bien pour eux-mêmes, pour les économies qu'ils feraient.
Vous pouvez nous rappeler comment ça marche déjà, parce que c'est pas absolument évident?
Non, tout à fait. Donc un robinet thermostatique, c'est composé de deux parties. Il y a une vanne, une partie vanne, donc qui se monte sur le radiateur, et ce qu'on appelle une tête thermostatique.
D'accord.
Sur la tête, on va la tourner, on va régler une température de consigne, c'est la température que l'on veut dans la pièce. Et lorsque la température ambiante dépasse cette température, eh bien le robinet se ferme et interrompt la circulation d'eau chaude dans le radiateur.
Est-il vrai qu'il faut toujours qu'il y ait au moins un radiateur qui n'en soit pas équipé?
Oui, alors avec les chaudières, c'était pour éviter que la chaudière, en fait, que la pompe, le circulateur de la chaudière ne tourne, je dirais, sur un circuit complètement bloqué. Aujourd'hui, les chaudières savent détecter ça, mais c'est vrai qu'on va pas en mettre dans la pièce où on va mettre le thermostat d'ambiance programmable.
D'accord.
Parce que c'est tout à fait compatible avec un thermostat d'ambiance programmable. C'est pas du tout des produits qui s'excluent l'un l'autre. Il faut mettre les deux.
D'accord. Est-ce qu'on peut considérer que un équipement complet, ça va chercher combien à peu près si on a, mettons, une dizaine de radiateurs dans la maison?
Alors ça dépend. Si on le fait soi-même, dans ces cas-là, on va trouver des produits alors classiques autour de 20-30 euros.
D'accord.
Électronique, ça va plutôt être 50-60. Donc ça va être. Si on le fait soi-même, ça peut être 300 euros si on en a une dizaine.
D'accord.
Si on le fait faire, là, ça va plutôt être 70-80 euros par radiateur. Si
d'accord. On est bien d'accord qu'il faut arrêter l'installation de chauffage pour remplacer les robinets. On ne peut pas faire autrement.
Oui, alors effectivement, si on est équipé de vannes manuelles, oui, il faut dans ces cas-là interrompre la circulation de chauffage. Si on a déjà au moins la vanne qui est thermostatique, ça existe, ça arrive. Des fois, on a des corps thermostatiques, mais dessus, c'est une vanne manuelle. Là, par contre, on peut facilement juste changer la tête aussi.
D'accord.
Mais sinon, oui, il faut interrompre le circuit.
Très bien, merci Eric Fauconnier. Je rappelle, vous êtes responsable marketing produit chez Danfoss. On va passer donc maintenant à la centralisation. Ça a été évoqué, la possibilité d'avoir donc une programmation centralisée. Donc Stéphane Berlioz-Latour, chez Delta Nord, vous êtes les grands spécialistes de cela. Là aussi, est-ce que ça a évolué? Parce qu'on mettait souvent simplement un système assez basique dans le salon, et puis ça pour que ça communique avec la chaudière, avec des fils, etc. Est-ce que maintenant, quelles sont les solutions qui existent?
Alors ça a beaucoup évolué effectivement, à la fois dans la façon de communiquer avec la chaudière, puisque maintenant on parle beaucoup de connecté.
Oui.
Donc le connecté c'est quoi?
C'est radio quoi.
Voilà, ça amène une fonctionnalité supplémentaire qui est de pouvoir piloter son thermostat et donc son système de chauffage à distance par le biais de son smartphone, sa tablette, etc.
Mais alors, on est bien d'accord qu'aujourd'hui, on peut faire de la programmation. Moi, je cite souvent mon expérience d'il y a quelques années dans une maison où on a fait installer ça. On a gagné, pratiquement parce qu'on a gagné 30% de chauffage directement. Parce qu'on peut, à ce moment-là, faire des vrais scénarios ou des scénarii, comme on dit au cinéma. C'est ça, on peut véritablement programmer très fin.
Tout à fait. En fait, le gros avantage, c'est que vous ne consommez que lorsque vous en avez besoin. Donc, on prend un exemple tout bête de la vie quotidienne. Vous partez, vous vous levez peut-être à 6h ou 7h du matin. Vous avez envie d'avoir votre maison qui est à une certaine température. Donc ça, vous pouvez la programmer. De manière à ce que quand vous vous réveillez, la maison soit à 20, par exemple. Sauf que à 8h, vous partez au travail. Vous n'avez pas envie que votre maison chauffe de 8h à midi ou de 8h à 18h quand vous rentrez. Donc, par le biais de scénarios ou scénarii, comme vous dites, vous ajustez selon votre degré de confort, la température que vous souhaitez avoir sur telle et telle plage horaire qui correspond à votre présence et à l'utilisation de votre maison.
D'accord. Mais moi j'en ai un dans un appartement à Paris qui lui est mobile. Alors ça je trouve c'est très bien parce que finalement on peut aussi faire moduler en fonction du moment où on est dans une pièce. Parce que si on a quelque chose de complètement bloqué, centralisé, c'est un petit peu gênant. Non, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est une bonne chose ces appareils mobiles?
Oui, alors la mobilité en tant que telle, le thermostat va être juste là pour donner une température de consigne. Après, il faut que votre installation soit équipée, soit organisée pour pouvoir faire ce qu'on appelle du multizone.
D'accord.
Ceci étant...
Si j'ai bien compris, c'est l'idée d'avoir un thermostat mobile. On rentre dans une chambre, par exemple, qui est très froid, et vous appuyez sur un bouton, ça va chauffer automatiquement. Ouais. Mais donc, il faut que ce soit configuré pour ça, bien sûr.
Oui, Ou alors que ce soit multizone. Mais alors là, on arrive dans une autre problématique. C'est la difficulté de régler vos bazars. Je veux dire, attendez, il faut être polytechnicien pour arriver à régler vos trucs là, non?
Non, encore une fois...
Vous pouvez pas simplifier un peu tout ça hein.
Alors, la gestion multizone dépend du système de chauffage, dépend pas du thermostat en tant que tel.
Ouais.
Une fois qu'on a cette gestion multizone dans le système de chauffage, le thermostat et la façon de le programmer intervient. Et c'est là où, chez Deltador, on essaye de faire les interfaces les plus simples possibles.
Et il y a des programmes standardisés, non?
Vous pouvez avoir des programmes standardisés. Après, encore une fois, ce qui est vraiment important, c'est la température ressentie, votre degré de confort et... votre occupation des pièces.
Benjamin Duarte, donc, là, au niveau des entretiens, est-ce que lorsqu'on a un contrat d'entretien, d'ailleurs, il faudrait rappeler qu'on peut avoir, un contrat annuel, le technicien qui vient, il peut aussi s'occuper de régler, voire d'équiper, de donner des équipements complémentaires?
Non seulement il peut, mais il doit le faire, pouvoir expliquer au client le fonctionnement, pouvoir lui proposer si ça n'existe pas. Ça fait partie en intégralité de son travail.
D'accord. Donc, il y a quoi? Il y a un forfait annuel, mais ça va être en plus, non?
C'est en plus. Le forfait annuel est pour ou bien une révision, une visite ponctuelle, ou bien un contrat d'entretien, où est inclus la visite préventive, donc la visite annuelle de révision et le dépannage éventuel. Et tout ce qui est autour de la chaudière, que ce soit les thermostats, les thermostatiques ou autres, c'est bien évidemment des forfaits.
Attendez, on précise là. Il y a le strict minimum. Il y a la chaudière, donc ça c'est la sécurité.
Une fois par an.
Vous avez plusieurs choses. Vous avez la chaudière, une fois par an, obligation. Vous avez le ramonage, une fois par an, obligation.
Voire deux,
bien évidemment, en fonction de la région, comme nous avons dit. Et troisièmement, le technicien, il intervient aussi chez vous comme chez moi. Et dans ces cadres-là, il doit voir tout l'environnement de son installation. Donc, voir si le flexible de la cuisine, par exemple, est dans les normes, s'il a un thermostat d'ambiance.
Ça, c'est fourni. C'est dans le forfait. Après, il faut aussi donc éventuellement avoir un abonnement pour si les pièces sont à changer, etc. C'est ça ?
Sur la chaudière. Voilà.
C'est combien à peu près un entretien ?
Un entretien, une moyenne, on paie de ce qu'on appelle plusieurs types de contrats
d'entretien. De combien ?
Ça va de 130 euros, grosso modo, à 200 euros en fonction.
D'accord.
La chaudière.
Ah oui, merci, c'est 130 euros par an,
oui.
Déjà minimum pour réviser la chaudière.
Ça c'est un contrat d'entretien. C'est un contrat, une moyenne, j'entends bien. Ça englobe donc.
Mais une révision, par exemple, si j'ai pas de contrat d'entretien.
Une visite ponctuelle, ça va entre 90 et 100 euros.
D'accord. Bon, très bien.
C'est quand même pas très cher pour garantir une sécurité toute l'année. Merci, messieurs.
Merci beaucoup, Christian. Merci. On se retrouve, on sera là samedi prochain, bien sûr. Hein, vous le savez, 8h-10h.
On parlera comment trouver, comment choisir un artisan.
Oui, parce que parfois, c'est pas facile. Hein. Et surtout, comment trouver le bon artisan.
D'ailleurs, on sera là toute la matinée pour parler.
Voilà, c'est ça. Et on aura sans doute un défilé d'artisans juste en bas de la radio, ça va être sympathique. Samedi prochain, Christian. Et dans un instant, c'est les GG du sport avec Christophe Cessieux.
Et oui, ça Christophe. Simon n'est pas là ce week-end, figurez-vous.
Il
est parti se reposer quelques jours. Il sera là de retour la semaine prochaine. Et nous, on va s'intéresser à l'OGC Nice. Et l'OGC Nice, encore une fois, leader du championnat de Ligue 1, qui a battu Lyon hier soir.
Qui va être content.
Ah, bah oui, moi aussi, tu sais que je suis
là. Bien sûr, je sais.
Et toi, t'es pas loin non plus.
Moi, je suis pas loin, c'est vrai.
C'est vrai. Voilà, on va en parler dans un instant avec le coach Courbis et Ali Benarbia. Et puis on s'intéressera également au rugby parce qu'il y a un magnifique match de Coupe d'Europe cet après-midi entre le champion d'Europe, les Saracens, face à son prédécesseur, le RC Toulon. Les Saracens sont-ils le nouveau Toulon? Voilà, jusqu'à 13h, les grandes gueules du sport. On vous attend au 32-16 sur l'hashtag RMC Live.
Dans un instant, donc, les GG du sport. Et moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain dimanche, dès 6h sur RMC. Portez-vous bien et bon week-end.